This is Radio Free Europe.
Minutos en Colombia.
Radio Dacha. France Inter. Le
18-20 ce soir sur le territoire de Boko Haram où de jeunes enfants sont enrôlés de force pour devenir kamikazes, pour devenir terroristes. Ailleurs dans le monde, le journal de l'International de Michael Thébault où il sera également question de cinéma roumain. Portrait, vous le verrez, un super héros aide les piétons à traverser les rues à Mexico. C'est utile et très étonnant. 18h55, l'édito d'Alain Frachon du quotidien Le Monde. Qu'en est-il exactement de la dette chinoise, mais tout de suite on file sur la route aux États-Unis ou plus exactement sur les rails.
Nicolas Demorand, un jour dans le monde.
Au fil du rail, sous-titre un reportage. C'est un livre absolument incroyable, écrit au début des années 80 par un jeune homme de 24 ans qui décide de vivre avec des hobos, ces sans-domicile américains qui passent de train en train, qui resquillent, qui se posent dans les wagons de marchandises, de fret, et qui explorent de fait les États-Unis dans tous les sens, nord-sud, est-ouest. C'est un mode de vie revendiqué par certains, une errance obligatoire pour d'autres. Et au final, je le redis, le journalisme à son meilleur. Bonsoir Ted Conover.
Thank you very much.
Bonsoir, vous êtes l'auteur de ce livre publié aux éditions du Sous-Sol, excellentes éditions du Sous-Sol. Traduction de vos propos par Michel Zlotowski, que je salue. Bonsoir Michel. Qu'est-ce qui vous a poussé Ted Conover, jeune homme, à rejoindre ces hommes et ces femmes qui vivent dans les trains ?
I guess I wanted to see if I had the resources necessary.
Je voulais voir si j'avais les ressources suffisantes pour vivre de cette façon-là.
The daring and also
si j'avais l'audace
the ability to get
et
to
la
know
capacité
somebody
de
so
rencontrer quelqu'un de tellement différent de moi.
Vous veniez de quel milieu et eux sont de quel milieu?
I grew up in Denver, Colorado, in a middle class family.
Je suis né dans la classe moyenne de Denver, Colorado.
Et ce qui vous attendait, c'était une vie de journaliste tranquille. Mais non, vous avez décidé de pousser les portes du train et de suivre les hobos.
When I grew up, the boys older than me would hop rides on these trains into the mountains.
Vous savez, les gosses qui étaient un petit peu plus âgés que moi attrapaient les trains comme ça pour aller dans la montagne. Ils revenaient, ils parlaient de leurs aventures.
I wanted to try that.
Moi, je voulais essayer ça.
And I wanted to take journalism to another level by living with somebody.
Porter le journalisme à un autre niveau en vivant l'expérience elle-même plutôt que simplement de poser des questions.
Alors, entrons dans les détails. Ces gens occupent quelle place dans l'imaginaire américain ? Est-ce que tout citoyen des États-Unis sait ce qu'est un hobo ?
Yeah. So hobos are an unusual kind of homeless person.
Eh bien, les hobos, ce sont des SDF un peu particuliers.
They have a romance about them.
Il y a quelque chose de très romantique à leur sujet. Certaines personnes pensent qu'ils ont choisi ce genre de vie.
They live a better life because they're free.
Et qu'ils ont une vie meilleure parce qu'ils sont libres. Ils n'ont pas besoin de travailler. Ils peuvent voyager avec qui ils veulent, aller là où ils veulent.
So I was interested, are they free or are they poor?
Est-ce qu'ils étaient libres ou s'ils étaient simplement très pauvres?
Et ils sont les deux?
They are both. Yes,
oui,
they
deux.
Are both.
C'est les deux.
But they like to pretend
mais
they.
Ils aiment.
They like to represent that they are superior to.
Faire croire qu'ils sont
certain poor people
supérieurs
because they have
à d'autres
resources.
Pauvres parce qu'ils ont des ressources intellectuelles. Ils savent comment attraper les trains. Ils savent comment échapper à la police.
They know how to win fights
ils savent
and survive.
Comment combattre et survivre.
Ted Conover, pourquoi bouger sans cesse?
It keeps life interesting.
Bah, ça rend la vie intéressante.
Il n'y a
pas besoin de rester assis dans le même parc, dans le même jardin.
Ça
vous rencontrez d'autres personnages, vous vivez dans une atmosphère différente, une météo différente, l'arrière-plan change, ça rend la vie intéressante.
Mais donc on peut dire qu'il y a une esthétique de vie chez ces gens-là. Ou pas?
They appreciate open spaces.
Ils aiment bien les grands espaces.
And they appreciate
ils aiment bien
towns with some fat around the edges or with some restaurants.
Ils aiment bien
qu'il y ait
du gras autour de l'os. Ils aiment bien les restaurants où il y a de la bonne nourriture parce que là ils peuvent trouver ce qu'il faut. Ils aiment bien trouver des nouveaux vêtements, trouver un nouveau sac de couchage.
Une question de nature plus sociologique, Ted Conover. Quels sont leurs profils? Est-ce qu'on peut établir des profils de hobos?
Yeah. So, During the Depression, it was
just displaced workers who wanted a job. C'était des employés, des travailleurs qui n'avaient pas de travail, ils cherchaient un boulot.
But then it changed.
Après, ça a changé. Après la Seconde Guerre mondiale, c'était plus des anciens combattants, des gens pas spécialement qui cherchaient un travail, un emploi, mais cherchaient une vie différente. Et à l'époque où moi j'y suis arrivé, c'était des anciens combattants du Vietnam. Et aujourd'hui, c'est beaucoup des anarcho-punks tatoués un peu partout qui ne veulent absolument pas bosser.
Est-ce qu'on peut dire que ce que vous avez connu, en tout cas, dans les années 80, au tout début des années 80, est-ce qu'on peut dire qu'il mène un combat, qu'il porte une critique?
Je
crois qu'il y avait une critique, un refus d'une certaine manière dans leur genre.
I don't want to live like the straight guys.
Je ne veux pas vivre comme les gens normaux.
I won't just be a slave to wages.
Je ne veux pas être esclave de mon salaire.
But for some of them,
mais
you
pour certains d'entre eux,
they wouldn't make very good employees. They
ça n'aurait pas été des très bons employés.
Have the right temperament or sometimes
ils n'avaient pas
maybe not the skills.
Le bon caractère, peut-être pas les capacités pour le faire.
Yeah.
Et ces gens qui voyagent sans cesse en train, vous diriez quoi au fond? Qu'ils portent une critique des États-Unis ou qu'au contraire, ils incarnent quelque chose de fondamentalement américain qui a à voir avec les valeurs fondatrices du pays?
I'd say mostly they consider themselves
patriots. Ils se considèrent comme des patriotes.
Reenacting the settlement
of the West, ils rejouent la conquête de l'Ouest en voyageant là où on a besoin de travail.
And they are keeping alive a spirit.
Et ils maintiennent vivant un esprit.
Of what of
l'esprit de quoi finalement
travel of traveling
voyage d'hommes qui voyagent
but it's a mixed message
mais c'est un message un peu mélangé.
They're suspicious of the Mexican workers.
Vous savez,
they don't like them so much.
Ils n'aiment pas du tout les travailleurs mexicains qui sont aux États-Unis. S'en méfient.
They're not so sure about which way the country is going.
Ils ne savent pas très bien dans quel sens, de quel côté se dirige le pays.
Quand on lit un livre, on le citait tout à l'heure, je disais sur la route, on the road, là c'est sur les rails, on s'aperçoit que être sur la route, ça fait partie de la mythologie américaine. Être sur les rails, ça fait partie aussi de cette même mythologie.
The mythology is connected. The beats took inspiration from the hobos.
Le mouvement beatnik s'est inspiré.
The hobos don't have the same resources.
Les hobos n'ont pas les mêmes ressources que des gens qui peuvent acheter de l'essence pour remplir le réservoir de leur voiture et s'acheter une assurance. Les hobos sont à la marge. C'est plus des marginaux. Ils sont beaucoup plus désespérés d'ailleurs.
Donc on ne peut pas dire qu'ils façonnent une contre-culture.
Non, je dirais pas ça. Non, vraiment pas.
Qu'avez-vous appris d'eux, Ted Conover? Vous, le gamin de 24 ans, on vous voit en photo dans le livre. Elles sont impressionnantes, les photos, hein?
Well, I learned some things about
bien, j'ai appris quelque chose sur le fait d'être avec des gens. Ils avaient peur de moi parce que j'étais jeune, donc il fallait que je mette plus de vêtements sur moi, que je m'épaississe un petit peu, que je mette des couvertures pour qu'ils ne croient pas que j'essayais de voler quelque chose. C'était bien d'arriver dans un camp de hobo avec du tabac. Mais c'était mauvais d'arriver avec beaucoup de vin parce que quelqu'un allait le boire et puis commencer une bagarre. J'ai appris aussi que je peux vivre de cette manière, mais qu'il me manquait le confort du voisinage de gens en qui je pouvais avoir confiance. Ça fait peur d'aller dormir avec des gens en qui on ne peut pas avoir confiance. Et puis d'être dehors tout le temps, ça fatigue après un certain moment.
Et comme journaliste, Ted Conover, ça a été une expérience là aussi marquante et fondatrice du type de journalisme que vous avez fait par la suite.
Yeah, so it changed my life. It made me think about my world differently.
Ça m'a fait réfléchir au monde différemment. Les gens m'ont regardé différemment.
Immersing myself,
et en m'immergeant,
I learned more
j'ai appris plus
about what it's like to
au sujet de ce que c'était
on the edge.
Que d'être vraiment
and it
et
led
de vivre
to
à
my
la marge.
Second book, which
et ça m'a mené à mon second livre, qui était une année de voyage avec les travailleurs mexicains. Et j'ai continué de le faire. Je suis devenu gardien à la prison de Sing Sing il y a plusieurs années. Tout simplement pour comprendre ce que ça signifiait d'être à l'intérieur, d'avoir ce sentiment de pouvoir rentrer dans la tête des gens, ce qui était à l'intérieur de la prison. C'est du journalisme. Peut-être que c'est un petit peu du journalisme littéraire, oui.
Est-ce qu'il en existe encore des hobos et dans la même proportion qu'à l'époque où vous les avez étudiés?
Maybe not as many.
Peut-être qu'il n'y en a plus autant.
But when I finished,
mais quand j'ai terminé, j'ai dit, c'est les derniers des hobos. J'avais tout à fait tort.
Going out there,
les gens
new
continuent
films,
à partir, les gens,
great
il y a de nouveau des documentaires à leur sujet, il y a des photos de...
Metal vehicles next to the beautiful desert and the mountains.
Vous savez, il y a encore des carcasses de voitures à côté des déserts.
C'est
beaucoup plus difficile aujourd'hui de prendre ces trains depuis le 11 septembre parce qu'il y a beaucoup plus de lumière, beaucoup plus de projecteurs, beaucoup plus de barrières, beaucoup plus de police sur les trains. Mais on peut encore le faire. Mon fils m'a demandé de l'emmener il y a 2 ans. J'ai dû rafraîchir un petit peu mes capacités et pour pouvoir qu'il
mais vous avez fait le voyage
en sécurité. Oui, je l'ai fait.
Et alors votre fils, il en a dit quoi?
After 5 days, he said
après
it's
5 jours, il a dit bon, ça va comme ça.
Il avait pas le courage de son père, hein. Vous, ça a duré plusieurs mois, hein, c'est bien cela.
I took 4 months.
Ouais, ça a pris 4 mois.
Les figures de la marginalité ont évolué aujourd'hui aux États-Unis, c'est-à-dire ce qu'on appelle les sans domicile fixe, par exemple, ont peut-être supplanté cette figure-là du hobo.
Yeah, to be a hobo, you have to have
pour être hobo. Il fallait être capable d'avoir tout sur soi, de se lever un beau matin et de partir.
Il
fallait être capable de trouver suffisamment de nourriture pour vivre 2-3 jours, des vêtements chauds parce qu'il fait froid la nuit. Donc, il faut avoir un fonctionnement plus élevé, plus rapide que simplement un SDF.
Est-ce que vous en avez retrouvé certains de vos compagnons de voyage de l'époque? Est-ce que vous avez cherché à voir ce qu'ils étaient devenus? Quel est le destin, au fond, des hobos?
Beaucoup d'entre eux vous raconteront comment ils ont commencé à prendre les trains. Beaucoup vont dire qu'ils ont commencé par chercher du travail, mais ils sont devenus ce genre de personnes qui n'aiment pas rester sur place. Je crois que dans leur histoire personnelle, il y a beaucoup de familles où le père est absent et eux deviennent aussi des pères absents.
Il y a
aussi des femmes qui travaillent, qui voyagent ainsi.
Mais
souvent, elles voyagent avec un homme parce que c'est dangereux de voyager. Tout le monde peut le faire, tout le monde peut y apparaître. Parfois, vous voyez des gens très très vieux qui peuvent à peine grimper sur le train, tellement fragiles. Parfois, vous voyez des ados qui, à votre avis, devraient être à l'école et qui ont fait des fugues. Donc, vous voyez le monde entier et vous leur parlez. Parce que quand les gens montent dans le train, eh ben, ils se mettent à parler.
Et alors donc, vous en avez revu ou pas, vos compagnons de voyage?
J'ai perdu la trace de la plupart des hobos que j'ai rencontrés. Ceux avec lesquels je suis resté en contact, ce sont les Mexicains que j'avais rencontrés. C'est ceux qui ont des réseaux, des familles, des adresses mail.
Une dernière question, vous avez prononcé le mot Ted Conover tout à l'heure. À partir de quel moment une certaine manière de raconter les histoires cesse d'être du journalisme pour devenir de la littérature?
So it's more than just the facts,
c'est
right?
Au-delà des faits.
It's not who, what,
c'est
where,
pas qui, quoi, quand,
it's,
où.
It's also,
c'est aussi
What does it feel like when the policeman grabs you and pulls you off the train?
Qu'est-ce qu'on ressent quand un flic vous attrape par le bras et vous tire hors du train?
What does it feel like to have waited 5 hours and finally
climb on that train? Qu'est-ce que ça veut dire aussi d'attendre 5 heures et finalement de pouvoir monter dans le train et d'aller vite avec le vent dans la figure, dans les cheveux? C'est comme si c'était une nouvelle renaissance.
Vous regrettez cette époque ou pas?
No, not at all.
Non, pas du tout.
I maybe am glad I did it when I was in my 20s.
De l'avoir fait quand j'avais 20 et quelques années, et pas plus tard dans ma vie.
But you could do it anytime.
Mais on peut le faire à n'importe quel moment de sa vie. Là, on pourrait y aller, nous deux, là. Allez, venez, on peut
essayer. Avec grand plaisir, j'aimerais. Votre livre donne tellement envie, c'est absolument incroyable de connaître ce monde-là. Une dernière question, j'espère pas indiscrète. Vous travaillez sur quoi en ce moment?
So I just wrote a book full of the lessons I've learned by immersing in these different worlds.
Leçons que j'ai apprises en m'immergeant dans ces différents mondes.
Keep your head on straight
and your est-ce qu'on conserve son esprit clair et on se remplit le cœur
over all the difficult parts.
Et malgré toutes les parties très très difficiles de ce travail.
Bah écoutez, merci beaucoup. Merci beaucoup Ted Conover. Au fil du rail, merci. Sous-titre, un reportage, un excellent livre aux excellentes éditions du Sous-sol. Merci Michel Zotowski pour la traduction simultanée des propos Bad Habits sur Inter à 18h33. Last Shadow Puppets. Last Shadow Puppets, Bad Habits sur Inter. Le journal de l'International à suivre.
Bachelors, 4 minutes.
BBC's Brian Hanrahan.
Buenos días, comienzan las comparecencias.
Thanks so much for that report.
Bonsoir Mickaël Thébault.
Bonsoir Nicolas.
On reparle ce soir des islamistes de Boko Haram, Mickaël, mais sous un angle rarement évoqué par la presse internationale, l'embrigadement des enfants.
Et l'embrigadement et leur utilisation à des fins terroristes, avec un phénomène en inquiétante, très inquiétante recrudescence, l'utilisation d'enfants dans les attaques suicides que mène Boko Haram dans les 4 pays limitrophes du lac Tchad, le Niger, le Nigeria, le Cameroun et le Tchad. Et pour bien comprendre l'ampleur du phénomène, ses conséquences, sa géographie, eh bien nous en avons parlé avec un responsable humanitaire qui est en première ligne, le directeur de l'UNICEF pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, Manuel Fontaine.
Ben, on se trouve d'abord au nord-est du Nigeria, mais avec une guerre et larvée qui a fini par influencer les autres pays autour, c'est-à-dire aussi une partie du Niger, du Tchad et du Cameroun. Donc toute la région qui est autour du lac Tchad en réalité. C'est une guerre qui a entraîné le déplacement de plus de 2 millions, près de 2 millions et demi de personnes, dont 1 million et demi d'enfants. Donc ça c'est la réalité, le contexte. Les chiffres de l'utilisation des enfants dans des attaques suicides, c'est une multiplication par 10 entre 2014 et 2015. C'est un chiffre que l'on a réussi à contrôler. On avait à peu près 4 attaques par des enfants en 2014, 44 en 2015, il y en a de nouveau en 2016. Le plus jeune qu'on a recensé avait 8 ans. Donc après, ce sont essentiellement des adolescents. Les 3/4 sont des jeunes filles. Donc on estime qu'une personne sur 5 qui se fait exploser actuellement dans une attaque kamikaze est un enfant dans cette région. En grande partie au Nigeria et au nord du Cameroun en particulier.
Alors comment expliquer que 75% des enfants impliqués dans un attentat suicide soient des jeunes filles, Manuel Fontaine?
Alors je pense que ça s'explique, l'utilisation des jeunes filles s'explique aussi peut-être par le fait que les familles, les communautés ou les marchés, les lieux où les enfants se font exploser, les gens se méfient moins d'une jeune fille qui les approche. Moi-même j'étais au bord du lac Tchad du côté tchadien par exemple, j'ai vu le lieu d'un des attentats, c'est une jeune fille qui est rentrée au milieu d'une famille qui était réunie autour d'un feu et qui est rentrée pour demander de l'eau, pour demander un verre d'eau, ce qui évidemment se fait toujours dans ces régions-là, on ouvre ça, on accueille une personne qui vient demander un verre d'eau et c'est une jeune fille, on s'en méfie encore moins. Donc je pense que c'est une volonté délibérée d'avoir accès à ces familles, à ces marchés, à ces lieux où les populations se rencontrent et aussi de créer une psychose autour des enfants qui est inquiétante.
Voilà, volonté de créer une psychose alors que ces enfants ne sont évidemment pas, Michael, coupables.
Non, ni coupables, ni responsables, mais simplement victimes. D'abord enlevés, violentés, puis embrigadés, véritable lavage de cerveau pour certains. Et ça, Manuel Fontaine, le martel ici et sur place.
Ces enfants sont absolument des victimes, et ça c'est très important d'insister là-dessus. Dans certains cas, ils ne le savent même pas, et c'est-à-dire que la bombe qu'ils portent est détonée à distance avec un téléphone portable, donc c'est même pas eux qui la déclenchent. Dans certains cas, ils la déclenchent, mais ce sont des enfants qui sont embrigadés, qui se retrouvent, qui ont été séparés de leur famille, qui sont seuls, qui ne savent pas très bien, qui sont jeunes, à qui on promet certainement des choses, à qui on fait miroiter certainement un avenir dans l'au-delà ou autre chose, et donc qui se retrouvent dans ces situations où ils ne savent pas comment s'en sortir autrement qu'en faisant ce genre d'action.
Et depuis un peu moins d'un an maintenant, les 4 pays où Boko Haram a installé ses bases ont décidé de s'associer militairement pour ratisser méthodiquement tous ces territoires. Et cela commence à payer. L'organisation terroriste a essuyé de sérieux revers. De nombreux enfants ont pu être libérés, mais avec de nouveaux problèmes qui apparaissent.
Ces 4 pays essaient de reprendre du territoire, essaient de repousser Boko Haram. Donc évidemment, au fur et à mesure que l'armée gagne du territoire, ce sont des populations auxquelles on a accès de nouveau, donc ce qui est important pour nous, ou des populations libérées. Au nord du Nigeria, j'étais à Maïdougouri il n'y a pas très longtemps, j'étais dans un des camps qui est rempli de femmes et d'enfants qui ont été libérés progressivement avec les mouvements de troupes. Donc ça, c'est une bonne chose. En même temps, ce qui nous préoccupe, c'est qu'il y a effectivement une certaine inquiétude et une peur, angoisse vis-à-vis de certains de ces enfants et un rejet de ces enfants. Et ça nous pose un problème. Dans certains cas, on a eu des enfants qui ont été détenus, qui ont été maintenus en détention pendant un certain temps par les forces de sécurité. Et on discute, on négocie avec les forces de sécurité de ces 4 pays pour s'assurer que quand une jeune fille de 11 ans a été prise dans les bras de Boko Haram, elle n'est pas considérée, comme on le disait tout à l'heure, comme un terroriste, mais elle est considérée comme un enfant et comme un enfant victime, en réalité, qu'on doit aider. Et puis surtout, il va falloir qu'on travaille beaucoup avec les communautés et les familles pour que ces enfants soient réacceptés et puissent réintégrer leur famille et leur communauté, ce qui n'est pas évident.
Et depuis l'enlèvement des 270 jeunes filles de Chibok, on s'en souvient, enlèvement qui avait ému toute la communauté internationale, l'UNICEF estime que 2000 autres enfants ont été enlevés à ce jour, Nicolas.
Et alors, une fois libérés, Michael, que se passe-t-il pour ces enfants?
Vous en doutez, c'est un long, très long processus qui démarre, protection et soins de l'enfant, physiquement et psychologiquement. Manuel Fontaine.
Alors avant toute chose, quand on récupère ces enfants, c'est d'une part de les protéger, c'est-à-dire de les enregistrer très rapidement, de savoir où ils sont, de façon à, s'ils sont séparés par exemple de leur famille, de savoir où ils sont, dans quel site de personnes déplacées ils sont, s'assurer qu'il y ait une famille qui s'occupe d'eux à court terme en attendant pour s'occuper d'eux et les protéger. Évidemment, s'assurer qu'ils aient les soins de santé auxquels ils ont le droit. On s'assure de les intégrer dans une forme de scolarisation dès qu'on peut. Donc il s'agit de les sécuriser le plus tôt possible. Et après, on essaye de voir si on peut trouver leur famille ou si on peut trouver des proches qui sont prêts à les accueillir. Dans certains cas, la famille peut être dans un pays, l'enfant dans un autre, puisque les gens se sont déplacés et ont beaucoup bougé. Donc c'est un travail de long terme, on y arrive, mais ça prend du temps.
Voilà, ça prend du temps et cela passe aussi, bien sûr, par tout un travail auprès des autorités locales, quelles qu'elles soient, services gouvernementaux, régionaux, autorités religieuses et même chefs tribaux, écoutez.
On commence aussi beaucoup à discuter avec les autorités traditionnelles, les chefs traditionnels, pour faire en sorte que ces communautés, encore une fois, ouvrent leurs bras et acceptent ces enfants. J'ai eu moi-même une discussion assez longue avec le Shehu, qui est le roi de l'État de Borno, donc le leader traditionnel de l'État de Borno au nord-est du Nigeria, et à qui j'ai posé la question de dire, voilà, est-ce que vous allez être capable, est-ce que les communautés, est-ce que vous, en tant que chef, vous allez être capable d'ouvrir vos bras à ces enfants nés du viol, à ces enfants qui ont fait partie des rangs de Boko Haram à un moment ou à un autre. Et la réponse, au début, était négative. C'était non, il s'agit des enfants de Boko Haram et donc on ne les acceptera pas. Et puis j'ai continué à discuter, on reposait la question en disant mais vous comprenez bien que vous ne pourrez pas reconstruire le futur de la communauté, le futur de votre État sans ouvrir les bras aux enfants, ce n'est pas possible. Et sans leur donner une chance et sans les considérer comme des victimes. Et là la réaction a été plus modérée et donc il y a une volonté d'y réfléchir et de se poser ces questions. Donc il y a tout un travail de médiation qui doit se faire avec les communautés, avec les familles pour que ces enfants soient de nouveau acceptés et vus comme des victimes que l'on doit l'aider.
Voilà, long et difficile processus, mais Manuel Fontaine et toutes les ONG qui travaillent avec lui ne perdent pas espoir et pour une raison toute simple, il y a d'innombrables exemples dans un passé récent, partout dans le monde, d'enfants soldats qui s'en sont sortis et même beaucoup plus facilement qu'on aurait pu l'imaginer.
Je veux dire qu'on a une longue expérience d'embrigadement. Alors, en l'occurrence, ça se passe avec Boko Haram et avec un embrigadement en partie religieux. Mais on a travaillé par le passé au Sri Lanka avec les Tigres Tamouls. On a travaillé dans le passé avec les Maoïstes au Népal, avec d'autres groupes, avec le LRA, qui est Lord's Resistance Army en Ouganda, qui recrutait aussi beaucoup d'enfants. Ça se fait de manière régulière, le recrutement d'enfants et l'embrigadement d'enfants. Rarement dans des attaques suicides, beaucoup plus dans des utilisations dans des groupes armés de manière plus traditionnelle. Ce que l'on a appris tout le long de ce travail, c'est qu'en réalité, un enfant que l'on ramène dans un milieu protégé, dans un milieu où il peut s'identifier avec des adultes qui s'occupent bien de lui ou d'elle, qui l'écoutent, une structure d'éducation et de loisirs aussi qui est en mesure de l'accueillir, ces enfants récupèrent assez rapidement en réalité. Il y a en fait très peu d'enfants qui se maintiennent dans un état d'embrigadement ou alors d'isolement vraiment, vraiment à long terme.
Voilà, l'espoir lucide, tout simplement, efficace de Manuel Fontaine, qui est donc directeur de l'UNICEF pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale.
Et comme chaque jeudi, direction à présent Bruxelles, Michael.
Bruxelles, où nous attend évidemment Quentin Dickinson. Bonsoir, mon cher Quentin.
Bonsoir Michael et bonsoir Nicolas, bonsoir à tous aussi.
Alors vous êtes un peu remonté ce soir Quentin, quand vous ne cherchez même plus à cacher votre agacement. Chaque fois que vous entendez dire, dites-moi si je m'arrête, Bruxelles a décidé, Bruxelles a interdit, Bruxelles a encore déçu. Et ce qui est plus rare, il faut féliciter Bruxelles. Expliquez-nous ça Quentin.
En fait, c'est notre ami Alex Vizorek qui, l'autre semaine, à ce même micro, s'insurgeait contre le fait que le raccourci politico-médiatique, commode quand on est en panne de synonymes, pour désigner l'Union européenne, c'est Bruxelles. Or, disait Alex, je suis bruxellois et je n'ai absolument aucune responsabilité dans les décisions que prend l'Union européenne. Et Alex a parfaitement raison. Et on comprend d'ailleurs qu'à un moment de l'histoire de l'Europe où celle-ci est particulièrement impopulaire, la ville de Bruxelles et ses habitants cherchent à éviter l'amalgame. De plus, et là c'est moi qui prends le relais, ce n'est même pas géographiquement vrai, car les institutions de l'Union européenne se répartissent sur 3 capitales, pas une seule, Bruxelles bien sûr, mais aussi Luxembourg et Strasbourg, d'une importance objectivement équivalente dans le processus de prise de décision et de son contrôle démocratique et juridique.
Et il n'y a d'ailleurs pas que ces 3 villes-là, de plus, qui accueillent les organes de l'UE, Quentin.
Oui, c'est exact. L'Union européenne, c'est aussi une bonne trentaine d'institutions et d'agences ultra spécialisées réparties un peu partout sur le territoire des 28 pays membres. Il y en a d'assez connues, comme Europol, à La Haye, ou la Banque Centrale Européenne à Francfort, mais d'autres, sans doute utiles, sont discrètes et ont toutes les raisons de le rester. Exemple, l'organe des régulateurs européens des communications électroniques, c'est à Riga, ou la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail, à Dublin.
Et y a-t-il des pays qui réussissent mieux que les autres à attirer chez eux ces organes avec à la clé des milliers d'emplois ?
Oui, la plupart des pays ont une seule agence. Parfois, c'est assez bien choisi. comme l'Agence européenne de sécurité alimentaire à Parme, fief du jambon du même nom et du parmesan. Dans d'autres cas, un peu moins. Ainsi, l'Agence européenne des droits fondamentaux doit-elle éprouver, on l'imagine, un certain malaise face à la politique anti-migratoire actuelle de la Slovaquie où elle est installée. Avec cette agence, en plus des institutions, la Belgique bat l'Espagne, qui n'en compte que trois. Quant à la France, elle peut se vanter d'accueillir sur son sol l'Agence communautaire des variétés végétales, à Angers, ainsi que l'Agence ferroviaire européenne, à Valenciennes. Notre pays se trouverait donc réduit à la portion congrue s'il devait par malheur un jour ne plus conserver le Parlement européen à Strasbourg.
Quentin Dickinson, en direct de Bruxelles.
Et on termine, Michael, par un petit détour par la Croisette, Cannes.
Cannes, où c'est promis, ici même en tout cas, on ne vous parlera d'aucun film français. La preuve, ce soir, avec l'un des deux films en compétition officielle aujourd'hui, Sierra Nevada, film roumain de Cristi Puiu, un quasi huis clos familial de, tenez-vous bien, 3 heures. Bonsoir Eva Bétan, en direct du festival.
Bonsoir.
Bon, simple question Eva, 3 heures, honnêtement, ce n'est pas trop long?
Vous êtes comptable, vous chipotez les minutes, mais non, il est vraiment très doué. Au départ, vous dites, mais c'est pas possible, je vais pas tenir 3 heures. Et si. Et pourtant, c'est juste une histoire de famille, une réunion de famille. Le syndrome connu de la cocotte minute. Au départ, vous êtes pris par tous ces bouts d'histoire, justement, par ce brio, par des scènes, par des moments de bravoure, par des mouvements de caméra incroyables. Et puis après, quand ça se décante un peu, vous vous rendez compte que, au fond, c'est une atmosphère qui l'a rendue. On voit qu'il y a encore des traditions qui demeurent dans cette Roumanie. On attend le pop parce que cette réunion de famille pour commémorer les 1 an qui suivent la mort du père de famille. On voit aussi des gens qui sont un peu déboussolés. On voit que la mémoire familiale, finalement, eh bien, elle est pleine de trous. Peut-être est-ce une métaphore de la mémoire, de l'histoire d'un pays qui est pleine de trous. On voit un des membres de la famille qui croit aux thèses conspirationnistes concernant le 11 septembre. Donc il y a toutes ces choses-là qui vous donnent un état d'esprit. Et il y a un moment dans le film qui est plus directement politique, où une dame âgée engueule une femme plus jeune qui est assez réactionnaire en lui disant... Elle est toujours communiste, en lui disant « Mais on lui doit l'électricité, l'électrification du pays, les barres d'immeubles, vous êtes des enfants du communisme. » Et ça, Cristi Puiu, bien, il l'a tiré d'une chose qu'il a vécue lui-même, une scène vécue.
C'est une dispute que j'ai eue avec la collègue de ma mère, qui s'appelle Evelina, comme dans le film d'ailleurs. Et c'était une discussion, un débat qui a eu lieu au repas après l'enterrement de mon père. Moi, je me suis fâché. Mais après, en pensant à tout ça, elle n'a pas profité du communisme. Elle est pauvre. Elle croyait et elle croit toujours à l'idée du communisme. Je me suis dit, au fond, ces gens-là, pas tous, mais parmi eux, il y avait des gens bien et ils se sont trompés. Oui, je pense qu'ils se sont trompés, mais est-ce qu'on détient la vérité? Non.
Est-ce que c'est d'avoir vécu dans le pays où vous avez vécu, des pays où on n'avait pas la maîtrise de son histoire et personnelle et de l'histoire collective, qui fait qu'on a l'impression que vos personnages, et peut-être vous derrière, vous êtes dans le doute tout le temps?
Vous savez, en 90, il y a eu une grosse manifestation à Bucarest. Ça s'est terminé avec l'entrée de la police et puis l'arrivée des mineurs qui ont tabassé les étudiants et tous ceux qui manifestaient dans la place contre les néo-communistes. Et moi, j'étais dans la place. Mais on rentrait à la maison et puis à la télévision qui était contrôlée par eux, qui disait, voilà, les gens qui se trouvent dans la place sont achetés par les partis de l'opposition avec des dollars, des blue jeans et de la drogue. C'est fou, la manipulation. Là, j'ai eu peur, vraiment. Et là, j'ai commencé à mettre en doute tout ce qui me parvenait à travers la télévision.
Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il va y avoir un deuxième film roumain en compétition officielle. Ça s'appelle Baccalauréat de Christian Mungiu. Mungiu, c'est celui qui avait eu déjà la Palme d'Or pour 4 mois, 3 semaines et 2 jours. Ça dit la vitalité de ce cinéma. On a vu, après la chute du communisme, apparaître toute une génération de cinéastes. Et leur présence à Cannes en est un des témoignages.
Eva Bétan, en direct de Cannes. Merci Eva et Nico. À demain.
À demain, Michael.
Un jour dans le monde... sur France Inter.
Le portrait d'un jour dans le monde, direction Mexico, la mégalopole de plus de 20 millions d'habitants et 5 millions d'automobiles. C'est un véritable calvaire, un cauchemar pour les piétons. Alors il y a 3 ans, un étrange justicier est apparu dans les rues de la ville. Il arrête les voitures au carrefour, il peint des passages cloutés et il oblige les véhicules à libérer les trottoirs. Son nom, ce n'est pas Zorro, c'est P.A. Tonito, l'homme masqué au secours des piétons désarmés. Ce n'est pas une blague, c'est même très sérieux. Notre correspondante au Mexique, Emmanuel Stills, l'a suivi lors d'une de ses opérations de culture civique, comme il dit. Pour préserver son personnage, P.A. Tonito préfère garder l'anonymat. Portrait.
Passez, le piéton a la priorité. Peu importe si on doit arrêter le trafic, le piéton doit passer le premier. Mais il ne les laisse pas passer, regardez cette voiture.
L'étrange personnage qui bondit au milieu des voitures, c'est P.A. Tonito, le super-héros en costume de lutteur. Masque en latex, orné du symbole universel du piéton qui traverse, et cape zébrée au vent, noire et blanche comme un passage clouté. Le défenseur des passants est de sortie, les 5 millions d'automobilistes n'ont qu'à bien se tenir dans les rues de Mexico.
Voici mon kit de défense piétonne. Un drapeau pour arrêter les voitures et leur montrer qu'il y a des piétons qui traversent. Des cônes pour faire de l'urbanisme tactique et modifier la géométrie des carrefours pour les rendre plus sûrs pour les piétons. Des bombes de peinture pour peindre des passages et signaler les obstacles sur les trottoirs et le code de la route. Oh mais regardez, là il y a des piétons en détresse. Cette dame essaye de traverser.
P.A. Tonito se porte à son secours. Nous lui demandons ce qu'elle pense du super-héros.
Maravilloso. Ah, il est merveilleux. Moi, je dois crier au conducteur. Attention, je vais passer.
Traverser une rue de Mexico ressemble souvent à ceci. Cris, pas de course, klaxon. P.A. Tonito résume la situation en français.
À Mexico, c'est vraiment dangereux d'être un piéton. C'est comme sport extrême.
Mais ce sont aux piétons eux-mêmes d'imposer leur présence, d'après lui.
Le piéton doit s'affirmer, il doit montrer que c'est son espace et que les voitures doivent attendre.
Au passage du justicier masqué, les enfants rient, les policiers aussi. Jacqueline règle la circulation à l'angle des avenues Chapultepec et Sonora, un carrefour mortifère pour les piétons.
C'est bien ce qu'il fait, car la ville n'est pas très bien faite. Et c'est le moins qu'on puisse dire.
Pour créer son personnage, P.A. Tonito dit s'être inspiré des idées de l'ancien maire de Bogota, Antanas Mocus, qui avait placé des mimes au carrefour de la capitale colombienne pour éduquer les automobilistes.
Tout a commencé comme une blague. J'ai joué au justicier des rues, mais par la suite, je me suis rendu compte que c'était une façon subtile d'extraire les automobilistes de leur monotonie quotidienne et de les faire participer à un spectacle de culture civique. Les conducteurs réagissent mieux car c'est ludique, c'est amusant. On sort de la confrontation. Regardez ici, il y a un obstacle. Une bouche d'égout ouverte au milieu du trottoir. Nous allons la signaler à la peinture fluorescente.
Pacifiquement, le super-héros demande à un conducteur garé sur le trottoir de déplacer son véhicule et celui-ci répond avec le sourire.
C'est mal ce que j'ai fait. Et qu'il y ait quelqu'un qui défende les piétons, c'est vraiment bien.
Si personne n'était venu bouger la voiture, j'aurais marché dessus pour montrer que c'est l'espace du piéton.
Même s'il est tenu de respecter le code de la route, le piéton est roi d'après P.A. Tonito.
Le piéton a le droit de déambuler librement. Je n'éduque pas le piéton. Je crois que nous devons concentrer nos efforts sur ceux qui ont une arme entre leurs mains, ceux qui sont motorisés. Le piéton n'est jamais en tort.
Musicien à ses heures perdues, P.A. Tonito a aussi composé l'hymne punk des piétons de Mexico, intitulé « Maudite voiture ».
Emmanuel Stills et les photos du super-héros des trottoirs de Mexico sur le site de France Inter, www.franceinter.fr. Allez, bientôt 18h56 sur France Inter, l'édito.
France Inter, le 18-20, Un jour dans le monde.
Signé ce soir Alain Frachon du quotidien Le Monde. Bonsoir Alain.
Bonsoir Nicolas.
Question simple, réponse compliquée. Qu'en est-il de la dette chinoise ?
En janvier, au Forum économique de Davos, Georges Soros mettait en garde contre la dette chinoise. Estimée à 240% du produit intérieur brut, elle est dangereuse, disait-il. Mal lui en prit. La presse chinoise se mit à promettre aux financiers américains le sort habituellement réservé aux tigres de papier du temps des gardes rouges. Au minimum, une pendaison médiatique. L'organe du Parti communiste chinois, le quotidien du peuple, ne fut pas le dernier à lui passer le chanvre au cou. Changement de ton cette semaine. Le même quotidien du peuple, titre à la une, attention à la dette. Le journal cite une source bien informée, comprendre quelqu'un de haut placé dans le parti. Et cette source évoque les risques systémiques que l'ampleur de la dette chinoise ferait peser sur l'économie mondiale en cas de crash. Le Fonds monétaire international ne dit pas autre chose. Dans Le Monde, ma consoeur Marie Charelle cite nombre de propos alarmistes entendus chez les économistes ici et là. La Chine cherche à changer son modèle de croissance. Elle veut une économie qui soit plus tirée par la consommation intérieure que par l'investissement en infrastructures et par les exportations. Problème, cette transition ralentit son rythme de croissance annuel. En gros, passé en quelques années de 10 à 6,5%. Usines qui ferment, chômage, difficultés sociales, bourses chinoises erratiques, les autorités hésitent. Elles veulent éviter un ralentissement trop fort. Alors elles ordonnent aux banques publiques de financer des entreprises de travaux publics qui se lancent à leur tour dans des investissements à la rentabilité des plus problématiques. Ce sont ces créances douteuses qui viennent nourrir la dette du pays. Oui, mais voilà, l'État chinois a du répondant, des réserves énormes, les ménages chinois aussi, le pays est assis sur un Himalaya d'épargne. Le danger ne semble pas être celui d'une crise de confiance ou d'un crash financier comme en 2008. Le risque, c'est plutôt que la Chine peine à réaliser sa transition économique, que son secteur bancaire peu sophistiqué continue ainsi à accumuler des créances pourries, et qu'elle soit prise dans une spirale diabolique qui finira alors un jour par présenter un danger de nature explosive. Si c'est le quotidien du peuple qui le dit, cela doit être vrai.
Alain Frachon du quotidien Le Monde, le journal à suivre.